Europe 1, il est 8h.
Ça ne devrait pas exister, ces bateaux-là. Il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de poissons à la mer. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, les patrons de pêche? Ils vont mourir et puis c'est tout.
Inquiets et en colère, les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer confrontés dans la Manche à la redoutable concurrence de l'un des plus grands chalutiers du monde capable de pêcher 250 tonnes de poissons par jour.
La Réunion et ses habitants attendent de pied ferme Emmanuel Macron. Les tensions sociales restent fortes sur une île protestataire pendant la crise des Gilets jaunes.
La Réunion a été bousculée par des conflits sociaux très importants. Le sujet de la vie chère reste essentiel. Et surtout, j'aurai des messages très forts sur l'agriculture et l'emploi.
9 départements du Sud en vigilance orange pour pluie et inondation, des trombes d'eau. L'Hérault en particulier sous très haute surveillance à Béziers. Il est tombé un mois de pluie en une heure.
Le point ce matin avec votre invité à partir de 8h15, la secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire, Emmanuel Wargon, qui reviendra sur l'intensité de ces épisodes méditerranéens.
Il est décidément l'homme fort sur la scène internationale. Vladimir Poutine a obtenu un accord sur la Syrie avec le président Erdogan. Pas de reprise de l'offensive militaire contre les Kurdes. L'analyse dans ce journal de Vincent Hervouet.
L'émotion des fans de Johnny à l'écoute en avant-première hier d'un album posthume qui sortira vendredi, des grands tubes en version symphonique.
Ah, quelle émotion, je m'attendais pas à être secoué, prise au trip comme ça, tellement que c'était fort fort.
8h01, vous êtes sur Europe 1, bon réveil.
Europe 1. Le journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Et tout d'abord, un bilan. Celui de la traque des autorités contre la fraude fiscale. Il y a tout juste un an, le gouvernement renforçait son dispositif antifraudeur via notamment l'intelligence artificielle.
Europe 1 vous révèle ce matin ce premier bilan très positif pour le ministre de l'Action et des Comptes Publics avec un montant record récupéré par le fisc.
Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour.
La traque contre la fraude fiscale rapporte gros. Hein.
Oui, je peux vous dire qu'on a le sourire. À Bercy, l'utilisation des données via notamment l'intelligence artificielle a permis de récupérer à elle seule sur les 9 premiers mois de l'année, 640 millions d'euros. C'est énorme et cette somme rentre dans les caisses, en plus hein, des dispositifs plus classiques pour détecter les fraudeurs. Avec cette technique, le ministère de l'Action et des Comptes Publics a décidé de cibler notamment les grosses fraudes. Cette technique, hein, c'est ce que l'on appelle le data mining en bon français. Ça permet de croiser toutes les informations que l'on donne aux différents organismes publics. Et force est de constater que ça fonctionne. Alors attention, hein, si vous avez pris justement quelques largesses avec le fisc ces derniers temps, eh bien le contrôle va être encore renforcé. Les équipes vont aller maintenant regarder ce qui se passe aussi sur vos réseaux sociaux. Si par exemple, tiens, vous avez déclaré que vous habitiez en Suisse ou en Belgique, mais que bizarrement, vous postez des photos la plupart du temps, généralement un peu plus de la moitié de l'année, à Bordeaux ou à Nantes, et qu'en plus, vous êtes à bord d'une Porsche que vous avez oublié de déclarer, eh bien là, vous risquez bien d'être rattrapé à cause des nouvelles technologies. Ça va être de plus en plus difficile de passer entre les mailles du filet.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Et on suit de très près l'évolution dans le sud, bien sûr, avec 9 départements en vigilance orange pour pluie inondation, des trombes d'eau en ce moment même, le déluge qui se poursuit dans l'Aude, l'Aveyron, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Gard, le Var, le Vaucluse et surtout dans l'Hérault où il est tombé à Béziers l'équivalent d'un mois de pluie en une heure. Vigilance et prudence donc.
Ça n'en finit plus. Le Brexit va-t-il une nouvelle fois être reporté? Hier, les députés britanniques ont voté oui pour étudier le contenu de l'accord, mais ils ont dit non pour le calendrier accéléré proposé par Boris Johnson. L'Europe devrait accorder un délai.
En attendant, Mathieu, beaucoup d'inquiétudes, notamment pour les pêcheurs français. Alors on va s'intéresser en particulier dans ce journal à un chalutier, le chalutier de la discorde. Il croise en ce moment dans les eaux anglaises.
Et pourrait se rabattre en cas de Brexit dans les eaux françaises avec une pêche quotidienne, écoutez, de 250 tonnes de poissons. Voilà ce qui inquiète les pêcheurs boulonnais qui dénoncent une concurrence déloyale. Le reportage de Lionel Gougelot à Boulogne-sur-Mer.
Ça ne devrait pas exister ces bateaux-là. Voilà, le gros bateau va massacrer tout. Moi je suis pas d'accord avec tout ça.
Derrière son étal de poissons fraîchement débarqués des petits bateaux, quel vent sur le quai du port, Sylvie laisse éclater sa colère en voyant la photo de ce chalutier usine de 143 mètres qui peut pêcher jusqu'à 250 tonnes de poissons par jour.
Quand on voit les petits bateaux qu'ils essayent à s'en sortir, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de poissons à la mer. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les patrons de pêche? Ils vont mourir et puis c'est tout. Et ça va mal finir tout ça.
Une concurrence mortelle pour les artisans pêcheurs français qui croisent ce monstre des mers dans les eaux anglaises. Un danger également pour la ressource, selon Éric Gosselin de la coopérative maritime.
Et la dimension des engins qu'il traîne fait qu'effectivement il est dangereux et il attrape de tout. Même s'il a des quotas de maquereau ou de hareng, je pense que dedans il y a d'autres espèces. Il est disproportionné par rapport à la zone où il travaille. C'est pas du tout approprié.
Et en cas de Brexit, le chalutier usine pourrait bien se rabattre sur les eaux françaises.
On peut imaginer que ce navire-là, en cas de Brexit, vienne rejoindre tout le reste de la flotille européenne qui va descendre sous le côté français. Et alors là, bah, ça va être impossible à gérer. Effectivement, ça va être source de conflits et c'est pas durable pour la ressource.
Reste cette question, pourquoi ce chalutier gigantesque est-il autorisé à pêcher dans la Manche alors qu'il a été interdit dans des pays comme l'Australie et le Chili? À Boulogne-sur-Mer, Lionel Gougelot, Europe 1.
En bras de chemise et collier à fleurs, oui, mais avec un ton martial, Emmanuel Macron a promis hier à Mayotte, je cite, des réponses extrêmement concrètes autour de la très forte immigration illégale sur l'île. Direction à présent, la Réunion, seconde étape de son déplacement dans l'océan Indien.
Un an après le mouvement des Gilets jaunes qui avait été très suivi sur l'île en novembre 2018 pour dénoncer la vie chère, les inégalités sociales, la Réunion, toujours en crise, Emmanuel Macron veut lutter contre l'esprit de division, dit-il.
La situation n'est pas facile. Il y a un doute qui s'est installé sur l'action publique au sens large et parfois l'esprit de division qui s'est emparé des esprits. Là aussi, nous avons un engagement, des réponses et une action. Mais parfois, les choses prennent du temps et il faut l'accepter. La Réunion a été bousculée par des conflits sociaux très importants. Le sujet de la vie chère reste essentiel. Et surtout, j'aurai des messages très forts sur l'agriculture et l'emploi. Parce que quand je regarde le taux de chômage et le taux de pauvreté, tout particulièrement de notre jeunesse à La Réunion, je me dis là aussi que la République doit faire quelques choix radicaux.
Emmanuel Macron au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Rémy Baudot.
Ils sont entre 8 et 11 millions en France, les aidants. Peut-être en faites-vous partie d'ailleurs. Ils soutiennent des proches en perte d'autonomie.
Et donnent beaucoup de leur temps et de leur personne. À l'instar de Marie-Hélène, qui fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. Elle a été un soutien essentiel jusqu'en 2010 pour sa mère atteinte d'Alzheimer. Et aujourd'hui, terrible, terrible coup du sort. Elle doit aussi soutenir son mari atteint d'un cancer. Elle a témoigné tout à l'heure à notre micro.
Tout est lié. Si l'hôpital va pas bien, si les infirmières vont pas bien, si dans les EHPAD il y a maintenant une douche tous les 15 jours, un truc aberrant, ça c'est pas réglé. L'aidant il sera pas reposé, il sera pas détendu. Un aidant qui va bien, c'est un proche qui va, enfin le malade va mieux en fait. Et tant que l'aidant sera en train de lutter pour des formalités administratives ou des trucs comme ça, c'est pas possible, ça n'ira pas. Donc en fait c'est une globalité, c'est un programme global qu'il faut sortir.
Encore une fois, je voudrais aussi la remercier Marie-Hélène, elle est venue témoigner en direct à 6h40 tout à l'heure sur Europe 1. Et vous allez peut-être vous aussi témoigner ce matin au 39-21. Pour tous ces aidants, le gouvernement a dévoilé ce matin un projet pour les soutenir. Il comprend notamment la possibilité d'un congé aidant rémunéré pour les salariés. L'essentiel consiste à faciliter leur quotidien, Olivier Samin.
6 orientations pour reconnaître le rôle des aidants et pour éliminer les difficultés qui compliquent leur quotidien. Voilà ce que va dévoiler ce matin Édouard Philippe dans ce qui est présenté par le gouvernement comme une stratégie de mobilisation et de soutien. Il y aura notamment des mesures pour rompre l'isolement des aidants avec la création de lieux dans lesquels ils pourront se retrouver et échanger. Des mesures vont aussi être annoncées pour simplifier leur vie et leurs droits. L'une d'entre elles est déjà connue. D'ici à un an, les salariés qui se mettent en congé de leur entreprise pour aider leurs parents âgés ou leurs proches handicapés auront droit à une indemnisation forfaitaire qui permettra de couvrir une période pouvant aller jusqu'à 3 mois d'absence de l'entreprise. Le gouvernement veut aussi encourager les entreprises et les branches à négocier des accords assouplissant les conditions de travail des aidants. Autre orientation, permettre aux aidants de se reposer avec la mobilisation d'équipes relais. Enfin, le plan du gouvernement prévoit des mesures dédiées aux jeunes aidants. Situation pas si exceptionnelle que ça. Une étude a révélé que 13% des jeunes aidants ont entre 13 et 16 ans.
Voilà, des aidants avec beaucoup d'abnégation. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Europe 1.
Vous restez avec nous au programme Donald Trump fragilisé, Vladimir Poutine renforcé. On va se rendre aux États-Unis puis en Russie sur une scène internationale bouillonnante. C'est la suite du journal de 8h dans un instant.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
Où en est la procédure à l'encontre de Donald Trump?
Procédure d'impeachment. Lui, en tous les cas, il est toujours aussi sûr de son fait. Donald Trump, en apparence, pas du tout inquiet parce qu'il qualifie de campagne de dénigrement de la part de ses adversaires. Sauf qu'un témoin clé est venu fragiliser les dénégations du président américain dans l'affaire ukrainienne. Récit et explication de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Il a déposé à huis clos pendant près de 10 heures dans une salle du Congrès. Bill Taylor, le représentant américain en Ukraine, avait beaucoup à dire et à la sortie, les élus démocrates étaient unanimes. C'est dévastateur pour Donald Trump. C'est une journée très perturbante. Le contenu du témoignage a fuité peu après dans la presse. Bill Taylor, ce haut diplomate de carrière, a confirmé sous serment que Donald Trump avait bien fait du chantage au président ukrainien à des fins personnelles. En échange de l'aide militaire américaine et d'une invitation à la Maison-Blanche, Donald Trump exigeait de l'Ukraine qu'elle ouvre une enquête sur le fils de Joe Biden, son rival politique. Il voulait même que le président Zelensky annonce ses investigations sur CNN. Le président lie toute la relation avec l'Ukraine à cette demande. Voilà ce qu'a entendu Bill Taylor de la bouche d'un ambassadeur proche de Donald Trump. La Maison-Blanche a réagi en dénonçant, comme d'habitude, une campagne de dénigrement. Mais pour les démocrates, ce témoignage est une avancée majeure dans leur campagne pour l'impeachment. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et à la fin, c'est toujours Vladimir Poutine qui gagne.
Oui, le leader russe est décidément l'homme fort sur la scène internationale. C'est lui qui a réussi à faire entendre raison à Erdogan afin que la Turquie ne reprenne pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Et en plus, Poutine a le triomphe modeste.
Oui, il prend toujours l'air modeste quand il jubile. Erdogan hier se vantait d'un accord historique et le russe s'est contenté d'un accord décisif avec un demi-sourire. Ils sont entendus sur le contrôle de la frontière syrienne, de part et d'autre du secteur que s'est taillé l'armée turque à coups de canon, il y aura des patrouilles russes et turques. Les Peshmerga kurdes ont 6 jours pour faire leur pactage. L'armée de Bachar el-Assad qu'ils avaient appelé au secours va les reconduire à la porte et ainsi finit le Rojava, la principauté des Kurdes syriens.
La Russie a donc gagné la guerre, elle est maintenant faiseuse de paix.
Gloire à Vladimir, devenu indispensable à Erdogan comme à Assad, comme à tous leurs voisins iraniens, égyptiens, israéliens, chrétiens d'Orient. François Hollande a commenté avec dépit, c'est la victoire de tous ceux qu'on ne voulait pas voir triompher. Il n'est point de vainqueur sans l'aveu du vaincu. L'ancien président écrit des livres d'histoire, les autres continuent d'écrire l'histoire. Et Poutine fait mieux, il l'a réécrit, il rembobine le film, il efface l'humiliation des années Eltsine et aujourd'hui il accueille sur les bords de la mer Noire 30 chefs d'État pour le premier sommet Russie-Afrique. Après le sultan Erdogan, le continent a rendez-vous à Sochi, les mêmes qui autrefois allaient à la boule prendre des leçons, vraiment quelle revanche.
Il n'est point de vainqueur sans l'aveu du vaincu, on retient les phrases de Vincent Hervouet. C'est tous les jours dans le journal de 8h, l'éclairage international. Merci Vincent.
C'était l'événement pour les fans de Johnny Hallyday. C'était hier soir à Lille. La Fnac a proposé d'écouter en avant-première l'album posthume intitulé sobrement Johnny.
Et moi, qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui.
12 titres repris en version symphonique. L'album dure une cinquantaine de minutes, une trentaine de privilégiés. On peut l'écouter, on va vous laisser savourer avec Maximilien Carlier qui a assisté. Il a été un privilégié à cette avant-première à Lille.
Dans une salle insonorisée, une vingtaine de fans de Johnny, assis, les yeux rivés sur l'album projeté sur un mur. Certains hochent la tête au rythme de la musique, d'autres ont les larmes qui coulent sur les joues.
Ah, quelle émotion, quelle force, fou, c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à être remué, secoué, pris au trip comme ça, tellement que c'était fort, fort. Et...
Quelque chose de Tennessee.
Et puis cette musique philharmonique derrière, ça nous emmène avec lui. Je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment un énorme hommage à Johnny Hallyday.
Moi, j'aime toutes les chansons. Hein. Rien de rien. Moi, la dernière de Guy Piaf, j'ai adoré. Je trouve qu'il la chante très bien.
Ça donne quoi ?
Non, rien de rien. Non.
Je ne regrette rien. C'est payé.
L'album de Johnny en version symphonique sortira après-demain. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Elle
en y va.
Non, je ne chante pas Johnny, vous êtes folle ou quoi? Jamais. J'étais en train de dire en antenne. Non, j'y vais pas. Sonia, j'étais en train de dire en antenne.
C'est dingue, c'est Johnny
avec
quand même.
Avec l'orchestration classique, je trouve que ça ressort la voix. Ça ressort vraiment la voix. Ça, je suis pas un expert, hein. Je vais pas jouer à l'expert, mais c'est ce qu'on se disait en antenne justement pendant
même
le sujet.
Même si on
de
aime les originaux
Carlier.
Aussi quand même.
En plus, ça voudrait que je chante sur Diego. Et ça, c'est le live au Stade de France. Vous entendez la voix. C'est le live au Stade de France, réorchestré. C'est fascinant. Merci beaucoup, Maximilien Carlier. Enfin, merci. Il a eu de la chance. On l'a envoyé écouter l'avant-première avant tous les autres. 8h16 sur Europe 1. Votre invité politique, Sonia.
Emmanuel Wargon, secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire, va bien sûr faire un point sur les intempéries dans le Sud, évoquer l'opération de décontamination de l'usine Lubrizol et insister, il ne faut pas les oublier, sur nos agriculteurs, leur colère.
A tout de suite.